Je vais vous parler d'un livre de Bernard Stiegler qui s'intitule « Dans la disruption, comment ne pas devenir fou ?» Alors j'avais lu des commentaires positifs sur cet ouvrage et donc j'ai été amené à le lire. Mais pour pouvoir vous en parler, il faut que je fasse un préambule pour avancer certaines notions, sinon je pense que ce sera difficile pour moi. Alors, l'auteur, c'est un auteur contemporain, puisqu'il est né en 1952. Il a eu un parcours personnel assez chaotique, dont il parle dans le livre, c'est pour ça que je le relate, en ce sens qu'il a quitté le système scolaire assez tôt, et il a fait un certain nombre de bêtises dans sa vie. Il a été jusqu'à braquer une banque. Il s'est donc retrouvé en prison. Il a suivi des cours par correspondance.
Ça tombe bien.
Il a suivi des cours par correspondance depuis la prison et de fil en aiguille, il s'est fait remarquer par la qualité de sa scolarité et il s'est retrouvé docteur de philo en 1990 en faisant un travail avec Derrida, un travail sur le numérique. Il a fait différentes fonctions. Il a enseigné à Compiègne. Il fait partie du Conseil national du numérique. Enfin bref, il baigne dans l'univers numérique. Il a écrit une trentaine d'ouvrages consacrés au numérique et au côté néfaste, les conséquences néfastes du numérique. Alors, toujours dans le préambule, les principales sources du livre. Il évoque un certain nombre d'auteurs et philosophes. Il parle de Husserl pour le fonctionnement de la pensée. Il parle de Heidegger qui dénonçait déjà les méfaits de la technique. De Adorno qui est un autre philosophe allemand qui a dénoncé la barbarie de l'industrie des biens culturels qu'étaient la radio et la télévision et le cinéma. Enfin, peut-être pas la télévision, mais le cinéma au moins. Les médias radio et télévision ayant été utilisés par Hitler et Mussolini comme un outil de propagande et idéologique. Il cite également Leroy Gourand, ethnologue, et Gilbert Simondon, qui est un philosophe de la technique, qui comprennent la technique dans le cadre de processus de socialisation. Il évoque également le dialogue qu'a eu Foucault et Derrida sur les rapports entre raison, folie et rêve. Et enfin, peut-être pas enfin, mais et encore, un autre auteur allemand qui s'appelle Peter Sloterdijk, qui a écrit sur le capitalisme et les processus de désinhibition du capitalisme qui ont été induits par le fait que, lors de la conquête du Nouveau Monde, les conquérants se sont lâchés et ont donné libre cours à tout ce qu'il y avait de mauvais chez l'homme, avec le massacre des Indiens notamment. Il fait également la relation avec Schumpeter, qui a décrit dans le cadre du capitalisme le processus dit de destruction créatrice. Il faut détruire pour recréer des objets, et qui insiste sur la compétition permanente entre les individus dans le capitalisme qui exalte la pulsion de mort, selon Freud. Donc, vous voyez, c'est beaucoup d'auteurs, beaucoup de notions maniées. Alors, ce livre, en plus, est difficile à lire, car il y a beaucoup de termes techniques qui ne sont pas expliqués. Alors, pour lire le livre, pour le comprendre, il faut aller chercher soit sur Internet le sens des mots qu'il utilise, soit se reporter à un vocabulaire, une partie du vocabulaire qui se trouve en annexe d'un livre qui s'appelle « Pharmacologie du Front National », que certains ont peut-être vu ou connu. Sinon, il faut aller sur le propre site de Stiegler, qui s'appelle artindustrialiste.org, où là, on retrouve presque tous les mots employés dans le livre. Pas tous, donc il y en a deux ou trois que j'ai renoncé à saisir et à comprendre. Enfin, peu importe, avec le reste, j'ai quand même réussi à peu près à me débrouiller. Alors, je vais vous donner quelques mots techniques ou employés de façon technique pour pouvoir comprendre la suite. Alors, le premier mot qu'il faut connaître, c'est le mot anthropocène, qui s'écrit A-N-T-H-R-O-P-O-C-N-E, qui correspond à la période actuelle, à la période de l'humanité, où l'homme est devenu destructeur de la nature. Donc on va dire depuis le 19e, 20e et 21e siècle. Le deuxième terme qu'il emploie régulièrement, et très souvent, c'est le mot hubris, qui est un terme grec qui signifie démesure, dont le transhumanisme est l'expression la plus actuelle aujourd'hui. Troisième terme qu'il emploie, le mot pharmakon, qui vient du grec, qui signifie ou remède ou poison. On sait que les médicaments peuvent être des remèdes et quelquefois des poisons. Donc toute technique est ambivalente. Si on prend par exemple le nucléaire, c'est un remède à court terme pour l'énergie, mais c'est un poison à long terme pour les hommes, compte tenu de ce qu'est le nucléaire. Il va prendre aussi, on le verra tout à l'heure, l'exemple des big data, que j'expliquerai. Donc aujourd'hui, pour lui, les pharmacones, les poisons l'emportent sur les remèdes. Autre mot que je vais employer, le mot entropie, écrit E-N-T-R-O-P-I-E, parce qu'il l'écrit quelquefois de façon différente. L'entropie, tout système physique tend spontanément vers sa destruction. Si vous laissez un morceau de fer quelque part, si vous le laissez en l'état, plusieurs semaines ou plusieurs mois après, vous verrez qu'il rouille. Donc spontanément, il y a de l'entropie. Donc il oppose à l'entropie l'opposé de l'entropie qu'il appelle la négentropie. N-E-G-U-E-N-T-R-O-P-I-E. Et il faut, pour qu'une société soit vivante, soit dynamique, soit positive, il faut des activités négentropiques, c'est-à-dire qui combattent la destruction spontanée de la nature. Et aujourd'hui, la destruction spontanée, c'est le réchauffement climatique, des choses de ce genre. Donc j'ai encore deux ou trois mots à vous expliquer avant de commencer. Il parle d'attention, rétention et protension. Alors attention, bon, c'est un mot qu'on comprend, hein, c'est la capacité que nous avons à être attentifs aux choses, mais de façon positive. Les rétentions, il y a trois types de rétention, c'est les souvenirs, c'est la mémoire. Donc les rétentions personnelles, les rétentions collectives, c'est tout ce qui se traduit dans la culture, tous les souvenirs communs. Et les rétentions tertiaires, c'est un concept nouveau qui désigne tous les supports où il y a de la mémoire. Alors, le plus ancien, ce sont les livres, ce sont les dictionnaires. C'est aujourd'hui les supports genre disque dur de nos ordinateurs ou les disques durs, enfin, ce n'est pas les disques durs, des serveurs informatiques. Donc, où on stocke une partie des souvenirs communs. Protension. Protension, c'est un terme qui veut dire tout simplement, alors ça s'écrit P-R-O-T-E-N-T-I-O-N-S. Alors, les protentions sont les attentes sous toutes les formes, les désirs, les projets, qu'ils soient personnels ou collectifs. Alors, il y en a d'autres, dont je vous fais grâce. Et donc, ce qui rend difficile la lecture de ce livre, c'est que sans arrêt, il y a de la manipulation de 10, 15 ou 20 termes techniques qui reviennent, qui correspondent à son corpus, hein. C'est comme ça, il n'y a pas. Mais c'est assez difficile, d'autant que soit il n'explique pas les mots, soit il renvoie la démonstration de ses propos dans d'autres ouvrages. Donc à la limite, il faut lire les 30 ouvrages pour pouvoir le comprendre. Il y a beaucoup de mots grecs utilisés. Je vais en citer qu'un. Il parle de parésia. La parésia, c'est le courage de la vérité, selon Foucault. Et dans un ouvrage qui fait pratiquement 500 pages, j'ai été très étonné, puisque l'on parle de techniques, des processus techniques numériques, il n'y a pratiquement pas d'exemples. Donc les exemples que je vais citer, c'est des exemples que j'ai extraits de ma lecture. Alors, j'en arrive à l'ouvrage. L'ouvrage a un double objectif, comme son nom l'indique. Donc nous allons définir ce qu'est la disruption et nous allons nous demander comment la disruption peut-elle rendre fou. Puisque la question, c'est comment ne pas devenir fou, donc ça veut dire qu'on peut le devenir. Alors, qu'est-ce que la disruption? Au sens strict du terme, la disruption, c'est la rupture. C'est la fracture qui est caractéristique de l'anthropocène. De notre époque, donc. Deuxième, enfin, je décline ces plusieurs définitions pour bien cerner le sens du mot disruption. C'est la désintégration sociale due à la télévision mondialisée, aux outils numériques que sont Internet et l'intelligence artificielle. Car chacun de ces outils nous dépossède de notre autonomie. Troisième définition, c'est l'aveuglement de la plupart devant l'installation du chaos, c'est-à-dire devant l'entropie, car la destruction de l'humanité est à notre portée. Enfin, dernier point, c'est le risque de devenir fou, car ce sont nos capacités de penser qui sont atteintes. Donc, nous verrons tout à l'heure comment ne pas devenir fou. Enfin, on essaiera de voir avec lui. Alors, dans la suite, je résume et j'assène quelques propos dont les démonstrations sont dans le livre. Je ne suis pas toujours capable de les restituer, d'ailleurs. Alors, premièrement, quels sont les symptômes de la disruption et de la perte de la raison? Alors, il voit dans la alors, il y a plusieurs items. Il voit dans la démoralisation de la jeunesse et du monde en général, avec la perception d'une absence d'avenir, une premier symptôme de la disruption. Deuxième caractéristique, c'est la violence et la rapidité des changements de notre époque. Et les systèmes sociaux, qui sont ajustés aux systèmes techniques précédents, ne font plus époque avec ce qui se passe aujourd'hui. Les nouveaux outils, notamment les robots issus du numérique, arrivent plus vite que nous pouvons les prendre en compte, alors qu'il cite comme exemple le marxisme qui avait réussi à repenser l'émergence de l'industrie de l'époque. Et donc, il y avait des outils de réflexion qui accompagnaient la technique. Donc aujourd'hui, bien que lui participe à la réflexion, aujourd'hui, il pense qu'il n'y a pas suffisamment de réflexion et d'appropriation de la rapidité de changement des différentes techniques numériques. Troisième symptôme, qui est plus facile à saisir, c'est l'absence de la transmission des savoirs intergénérationnels entre adultes et enfants. On sait qu'avec le numérique, ce sont les enfants qui enseignent aux adultes et non plus l'inverse. Utiliser le smartphone, l'ordinateur et tout ça. Mais c'est un changement radical dans la transmission des savoirs. Il y a également une modification profonde des savoir-faire et des savoir-être. Alors, je donne des exemples. L'usage d'Internet modifie considérablement nos pratiques sociales. Alors, quand on regarde Internet, par exemple, ça va depuis la recherche du conjoint jusqu'aux cours en ligne. Donc, il y a une modification profonde des rapports sociaux dus à Internet. Alors, autre point, la technique numérique prend le contrôle du partage, du partage entre humains. Alors, je m'explique parce que ce n'est pas évident. Alors, ce qui caractérise les individus d'une même époque et d'une même culture, c'est un horizon commun de leurs attentes qui leur permet d'avoir un avenir commun ou une promesse d'avenir commun. Or, aujourd'hui, les techniques numériques sont disruptives parce qu'elles prennent le contrôle de ce partage. Alors, un exemple que moi j'ai trouvé par rapport à cette affirmation, c'est que quand vous posez une question sur un moteur de recherche, Google pour ne pas le nommer, s'il y a 1000 personnes qui posent la même question, les 1000 personnes auront exactement la même réponse. Donc il y a une sorte de culture standardisée qui s'installe, puisque le savoir étant déporté sur des serveurs, les réponses sont identiques pour tout le monde. Et donc, cette uniformisation, pour lui, empêche d'avoir des prétentions, c'est-à-dire des désirs et un projet collectif positif. Autre symptôme qu'il appelle la désintégration sociale, c'est la vitesse de changement du numérique et de ses conséquences sur les systèmes sociaux font que cela crée du vide juridique. L'exemple, prenez l'exemple de Uber. les voitures. On voit que les sociétés qui font de la location de voitures par smartphone interposé ont foncé tête devant et n'ont pas tenu compte du tout du fait qu'on commençait à prolétariser un certain nombre de chauffeurs. Et donc, on a créé un vide juridique. Enfin, la société met du temps à reprendre en main les choses, mais la vitesse du changement fait que la société n'arrive pas à s'adapter au plan juridique. Autre exemple de risque de désintégration sociale, c'est que la démocratie délibérative risque d'être remplacée par des décisions algorithmiques. C'est-à-dire que c'est l'intelligence artificielle qui fournirait des réponses et des décisions. Enfin, c'est un risque, ce n'est pas fait encore aujourd'hui, mais c'est un risque qu'il signale. Alors, en quoi la disruption peut-elle rendre fou? Alors, pour toutes les raisons qu'on vient de citer, mais il y en a une autre raison qui est fondamentale, c'est qu'il y a le risque de contrôle total de la psyché par le marketing, par la publicité, par l'exploitation systématique des données qui sont sur les serveurs, ce qu'on appelle les big data, via l'intelligence artificielle. Donc, pour prendre les mots qu'il emploie, le capitalisme computationnel ne recherche que le profit et cherche à prendre le contrôle de la psyché humaine. Et donc, il y a un danger mortel pour notre raison et nos capacités de penser et notre liberté, car l'équilibre entre l'attention, les rétentions et les protentions est détruit. Donc, il y a une modification entre nos capacités d'attention propre et les rétentions tertiaires numériques qui externalisent nos mémoires et les données qui sont déportées vers autre chose que nous-mêmes. Alors, comment échapper à la disruption et ne pas devenir fou? Alors, il y a des solutions, mais vous serez surpris de la solution qu'il propose. Premièrement, les mauvaises solutions. C'est apprendre à vivre avec l'Anthropocène, accepter la situation actuelle et attendre la fin du monde. Dans les mauvaises solutions, qu'il cite pour sourire, mais il y a des gens qui y pensent sérieusement, c'est la fuite dans le voyage interplanétaire. Cela étant, ça ne résout rien. Hein. Ce n'est pas parce qu'on se déplace qu'on a résolu pour autant ces problèmes. Deuxième type de solution, une solution urgente. Alors, parmi les solutions urgentes, il faut combattre les nouveaux barbares que sont Facebook, Google et toutes les sociétés qui promeuvent le numérique à tout prix. Il faut résister au capitalisme computationnel et fonder une nouvelle économie solidaire. Et pour employer encore un terme nouveau, il faut déprolétariser.
Ah oui.
Il faut faire en sorte qu'il y ait moins de prolétaires. Il faut également combattre le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est une technique qui pose comme principe l'obsolescence de l'humain et sa transformation biologique et noétique, enfin intellectuelle. Quelles sont les solutions nécessaires? Pour lui, la première solution, c'est une solution qui doit être en amont, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de la vérité des enjeux, ne pas être dans le déni, ne pas dire ben non, ça c'est pas vrai. Donc il faut avoir le courage de la vérité, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est la condition nécessaire pour pouvoir faire quelque chose. Donc il faut bifurquer, il parle beaucoup de bifurcation, il faut bifurquer, il faut que l'humanité prenne conscience qu'elle risque d'aller à sa perte, et ça passe par un changement d'attitude et par un changement d'orientation. Il appelle ça une bifurcation. Alors, est-ce qu'il croit possible cette bifurcation? Eh bien, non. Lui, il est très pessimiste, hein, il est vraiment très très pessimiste. Il dit que l'innovation permanente dans le numérique ne permet plus au corps social de se stabiliser et détruit par avance toutes les capacités à adopter de nouveaux, adopter ou à adapter les nouveaux systèmes techniques et d'en contrôler les effets. Et il conclut en disant, mais ce n'est pas ma conclusion, et il conclut en disant, seul un miracle peut nous sauver. Donc c'est extrêmement, comment, pessimiste. Mais pour ne pas nous quitter sur ce côté négatif, page 444 en bas de page, donc pratiquement à la fin du livre, il nous dit comme ça, alors dans le livre il y a beaucoup d'autobiographies, et là il nous dit en bas de page, dit mais au fond moi je vous conseille un logiciel de reconnaissance vocale qui vous facilitera énormément pour votre travail, pour dicter vos textes, et ça améliorera votre productivité personnelle. Alors j'ai trouvé assez étonnant que quelqu'un qui dénigre le numérique pendant 500 pages nous dise à la fin, eh bien avec un outil de reconnaissance vocale, vous serez très bon. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de cette conclusion en fin de parcours, mais j'ai trouvé ça un peu surprenant, mais un peu positif malgré tout. Voilà.